Alors je voudrais maintenant interroger le lien qui existe entre mémoire et traumatisme collectif. D'abord, il faut prendre en considération la puissance identitaire de la mémoire des tragédies, qui avait déjà été pointée par le philosophe français Ernest Renan au XIXe siècle, lorsque Ernest Renan écrivait « La souffrance en commun unit plus que la joie ». Et c'est à ce titre donc qu'il y a effectivement un lien spécifique à interroger entre mémoire et traumatisme historique. On peut rappeler que la notion de traumatisme est issue du vocabulaire médical et que c'est à partir du traumatisme individuel que s'était imposé, qu'a été mis en évidence un éventuel traumatisme collectif qui a été constitué en pathologie de la mémoire collective, enregistrant donc, censé enregistrer les effets psychosociaux des violences du passé, à l'aide de concepts issus de la psychanalyse, le refoulement, le travail de deuil, la névrose, l'obsession. Et chose tout à fait remarquable dans ces dernières années, des traumatismes historiques ont pu être patrimonialisés, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans le patrimoine de groupes qui considèrent que ces traumatismes font partie de leur passé et qu'à ce titre, donc, ils ne doivent pas être oubliés, ils font partie de leur patrimoine. Et cela semble être tout à fait la spécificité de notre époque depuis quelques années, qui privilégie une figure, celle de la victime, par rapport à celle du héros. On ne peut en effet que conférer des droits à la victime. Si tel groupe a été victime d'une injustice dans le passé, cela lui ouvre dans le présent une ligne de crédit. Une ligne de crédit que le philosophe Tsvetan Todorov qualifie d'inépuisable. De là, la mobilisation en cette affaire d'un registre moral. Registre moral qui transforme cette attirance pour la mémoire en un mode de plaidoyer public. Il y a de la morale, vous voyez, mais il y a aussi, de manière implicite, de la justice qui est mobilisée, servant donc à légitimer des actions entreprises au présent en les rapportant à un héritage des injustices passées. Seulement, cela expose bien sûr à la concurrence des démarches similaires et s'est imposé en la matière un modèle. Ce modèle, c'est celui de la Shoah, constitué comme unique, comme indépassable, se parant même, je dirais, d'une aura de sacralité, mais installant, malgré tout, une échelle de proximité par rapport à l'Holocauste, un étalon en quelque sorte de la reconnaissance de la souffrance pour d'autres groupes descendants de victimes de tragédies plus ou moins anciennes et qui, eux aussi, se comportent comme si leur identité était en jeu à travers le souvenir du malheur de leurs ancêtres. Et c'est ainsi qu'on a pu évoquer, ces dernières années, des guerres de mémoire. Guerre de mémoire, par exemple, mémoire juive contre mémoire noire. Et ces guerres de mémoire, en quelque sorte, pour défendre, pour installer en quelque sorte dans des sortes de forteresses les mémoires qui s'affrontent, eh bien, on a besoin finalement de les faire sortir de l'historicité, qui sont les leurs, même si leur factualité a été validée par une expérimentation historienne, par une évaluation historienne, et à les placer sous la protection des lois. Et on a en France deux lois qui sont tout à fait révélatrices de cet état de fait, hein, placer donc des mémoires sous la protection des lois. La loi Guesso sur le négationnisme, qui donc est protectrice en quelque sorte de la mémoire de la Shoah, et puis la loi Taubira de 2001, qui est protectrice de la mémoire de l'esclavage.